I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天，原本居住在祁连县偏远牧区的牧民
Hollywood stars Vika Perugi Lucheri की बात कर रहे हैं.
Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, cette émission que vous retrouvez sur France Culture tous les jours à 11h. On est ensemble jusqu'à 11h50. Vous retrouverez bien sûr la chronique frontière de notre ami Alexis Patovstev, ce sera tout à l'heure vers le mi-temps de l'émission. On poursuit notre série autour de l'industrie du sexe, sexe et porno, la fabrique des désirs. On va même la clore ce matin. On commençait lundi avec l'industrie pornographique du côté des États-Unis, de l'Europe de l'Est, de Budapest à la Panne Valley, silence on tourne. Et puis mardi, on parlait des imaginaires érotiques du monde, avec le Japon en particulier. Et puis hier, c'était l'Indonésie, la Chine et l'Égypte qui nous intéressaient, cachaient ce sexe que je ne saurais voir. Mais aujourd'hui, si Sex and Son, les enjeux du tourisme sexuel.
C'était de l'argent facile. Il y a beaucoup de touristes qui cherchent des enfants à Marrakech. Eux, ils ont de l'argent et nous, on n'a rien. Qu'est-ce que tu crois ? Nous, on est obligés d'accepter de se rendre. Nos familles sont pauvres.
Je pense que si les Thaïlandais avaient le choix, s'ils avaient un bon boulot, eh bien, ils ne feraient pas ce genre de choses. Ils le font parce qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Si je pouvais changer quelque chose, je demanderais aux touristes, s'il vous plaît, soyez bons avec la Thaïlande. Ne détruisez pas les Thaïlandais et notre jeunesse.
Ce n'était pas la vie que je voulais.
Ici, elles vous abordent partout. Quand vous êtes sur une terrasse ou dans un centre commercial, elles viennent vous parler. Le contact peut être facile avec les Brésiliennes.
Maroc, Thaïlande, Brésil, trois pays où le tourisme sexuel est très présent, trois pays parmi d'autres. Régulièrement, ce tourisme sexuel est sous le feu des projecteurs, rien de plus normal dans la mesure où il constitue une illustration assez abjecte de l'exploitation de la misère du monde, en particulier lorsqu'elle concerne des enfants, même si ce n'est pas celui-ci, ce tourisme-là en particulier sur lequel on se concentrera ce matin. Pour autant, il est bel et bien une réalité, il est pratiqué par des millions de personnes de par le monde, bien souvent des touristes sans histoire, parfois des couples, monsieur et madame tout le monde. Ce tourisme sexuel est au cœur de la mondialisation. Il est une résultante des mobilités contemporaines, de l'internationalisation de l'offre prostitutionnelle, de l'intensification du tourisme de masse, de la recherche d'une forme d'exotisme. Alors pour tenter de comprendre ce phénomène mondial, ce phénomène massif, il faut essayer d'aller plus loin, peut-être que la seule condamnation, car ce tourisme sexuel, il répond à des logiques avant tout économiques, des logiques culturelles. Tenter d'expliquer ce tourisme sexuel oblige donc à mettre en regard les questions de développement, d'asymétrie nord-sud, et ce qu'on pourrait appeler l'exotisme érotique, ce fantasme que suscite l'autre depuis toujours dans l'imaginaire. Alors, est-ce qu'il existe d'abord un seul tourisme sexuel ? Peut-être pas, sûrement pas, même on va en parler ce matin. Est-ce qu'on peut, par exemple, mettre sur le même plan l'exploitation sexuelle des enfants et les actes sexuels pratiqués avec des adultes majeur et consentant? Est-ce que ce tourisme relève aussi toujours d'une domination de type nord-sud? Que cherche aussi le touriste sexuel? Est-ce que le tourisme masculin est le même que celui qui est pratiqué par les femmes? Un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin, et notamment avec notre invité Franck Michel, qui est avec nous depuis Strasbourg. Bonjour Franck Michel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes donc en duplex depuis Strasbourg. Vous êtes, vous, anthropologue. Vous êtes auteur d'un ouvrage sur le tourisme sexuel, Voyage au bout du sexe, trafic et tourisme sexuel en Asie et ailleurs, qui était paru aux presses de l'Université de Laval en 2006. Ça fait presque 20 ans, Franck Michel, que vous travaillez sur les questions afférentes à ce tourisme sexuel. C'est vrai que quand on parle du tourisme sexuel, on arrive très vite à des considérations morales, éthiques, philosophiques, qui du reste sont absolument justifiées, mais qui ne règlent pas la question. L'exploitation sexuelle des individus vivant dans les pays moins développés, elle est regrettable bien sûr, mais elle est une réalité sociale, politique, économique. Alors comment construire, Franck Michel, quand on est un anthropologue comme vous, un scientifique donc, un discours un peu pragmatique, scientifique justement, sans tomber dans une condamnation un petit peu primaire, en tout cas qui peut s'avérer stérile, qu'il faut dépasser en tout cas, Franck Michel?
Oui, justement, je pense qu'il faut d'abord la dépasser, parce qu'effectivement, un des écueils les plus
le plus classique, c'est justement tomber dans la moralisation et dans un discours un peu simpliste. Et je pense que c'est difficile. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est un sujet très passionnel. Hein, donc, c'est toujours, je le vois dans les conférences que j'ai pu donner, les gens sont soit pour à fond, soit contre. Quand je dis pour, c'est-à-dire avec un discours très libertin ou libertaire, selon les cas, avec une forme d'hédonisme extrême, un petit peu, avec ce côté donc très, très, très libre. Et en disant, voilà, en allant vraiment tentant de justifier parfois ce qui n'est pas justifiable. Et puis en même temps, donc ceux qui sont complètement contre de manière absolument drastique, c'est-à-dire qui ont un discours extrêmement moral, souvent pétri de religion. Hein. Et je dirais donc que derrière tout cela, il y a quand même une forme, je dirais, de décomplexer. Enfin, on essaie un petit peu de décomplexer le discours de tous les côtés avec, et de se lâcher, entre guillemets. Hein. Donc aussi, on voit par exemple, c'est vrai que le côté le sanglot de l'homme blanc, hein, qui revient toujours un petit peu là-dessus, et on voit aussi la culpabilité, donc le fond, le vieux fond judéo-chrétien qui ressurgit à la première occasion. Donc c'est vrai que c'est le débat est passionné et c'est toujours un petit peu difficile parce qu'on est toujours d'un côté ou de l'autre. Je sais que moi j'ai été critiqué de tous les côtés hein, par les féministes de deux côtés donc, et puis par des curés aussi. Donc on voit qu'à tous les niveaux, on peut faire ce qu'on veut. C'est un sujet qui est tabou aussi, hein, donc ça qui est important. Je crois que au niveau universitaire, c'est quand même extrêmement mal vu encore en France de travailler là-dessus. Ça commence à changer hein, doucement, mais très doucement. Je sais que quand j'interviens sur eux, dès qu'on parle, par exemple, de tourisme sexuel à destination des enfants, donc là, il y a un consensus général. Tout le monde va dire que c'est absolument abject, donc tout le monde sera d'accord. Donc là, c'est plus facile d'intervenir. Par contre, quand vous parlez donc des adultes, là, évidemment, vous allez avoir toute une série de lobbies, entre guillemets, qui vont agir en disant « Mais non, mais la femme fait ce qu'elle veut, on va arrêter de parler à leur place, etc. » avec ce genre de discours-là.
Et même si les deux phénomènes peuvent apparaître comme totalement séparés, vous considérez qu'ils sont liés ou en tout cas qu'il faut les appréhender ensemble ?
Oui, évidemment, ils sont complètement séparés quand même. On est bien d'accord là-dessus. Donc, je pense que,
oui, d'un point de vue juridique, très clairement.
Voilà, bien sûr. Donc, c'est évidemment.
Bien sûr.
Par contre, ce que je trouve particulièrement scandaleux, c'est de voir regarder par exemple un bouquin ou un film comme Lolita aujourd'hui aura beaucoup de mal à sortir, par exemple. Hein. Et puis autre chose, c'est qu'on est dans une sorte de pensée un peu délirante quand on voit la protection qu'on a dans certains pays, dans certaines situations bien données, d'une jeune fille qui a, je sais pas moi, par exemple 17 ans et qui a bientôt 18 ans dans quelques semaines et à qui on ne peut absolument rien faire, qui ne peut pas sortir, etc. Et puis dès qu'elle a 18 ans, le jour de ses 18 ans ou un peu après, elle entre directement dans un univers parfois du porno complètement abject. Donc on voit qu'on est dans des extrêmes complètement débiles, quoi, qui ne répondent à aucune réalité objective. Et donc là aussi, je pense qu'il faut à un moment donné essayer de respecter l'être humain pour ce qu'il est et pas en fonction de normes ou de pour nous donner bonne conscience, par exemple, tout simplement.
Quelques considérations, Franck Michel, définitionnelles. Comment est-ce qu'on pourrait définir ce qu'on appelle le tourisme ? Peut-être il faudrait le mettre au pluriel, d'ailleurs. Les tourismes sexuels. Qu'est-ce que ça recouvre comme type de réalité ?
Oui, justement, c'est... Alors, pour aller un petit peu... Je crois que justement, il faut revenir un peu en arrière. Je crois que le tourisme, c'est quand même déjà... C'est d'abord du divertissement, du plaisir et de la découverte. Et donc, dans l'image du tourisme. Et donc, quelque part, ce qui est très important, c'est dans l'univers, surtout dans l'inconscient collectif, quand on part quelque part pour faire du tourisme, surtout quand c'est loin, le but, c'est qu'on n'est pas du tout pareil. On se lâche plus facilement. On se permet des choses qu'on ne se permettrait pas chez nous. On n'arrête pas de... Voilà, pour le prétexte, c'est toujours... Les cultures sont très différentes, donc on peut se permettre, les choses ne sont pas comme chez nous, c'est plus pareil. Finalement, donc, on ne va pas draguer de la même manière, on ne va pas aborder des situations, que ce soit au niveau du respect, au niveau de la femme, par exemple, au niveau des cultures, de la même manière que chez nous. Les barrières tombent, tout simplement. Et donc là, on voit déjà que d'une certaine manière, ce qu'on ne peut plus faire chez nous, qu'on n'ose pas faire chez nous, c'est-à-dire par exemple tout simplement aborder une jeune fille par exemple dans un bus, ben là-bas on va se donner les moyens d'être beaucoup plus courageux et donc quelque part aussi on amène avec nous notre bagage culturel, mais aussi nos problèmes. Mais c'est là où le bas blesse.
On va revenir, pardon Franck Michel, sur cette forme de libération en effet qui est liée à cette activité touristique. En effet, le touriste ressent une forme de libération dès qu'il sort de chez lui et dès qu'il arrive dans un pays inconnu avec une nouvelle culture qu'il découvre, etc. Mais pour revenir sur cette question...
Je n'ai pas répondu, c'est vrai, excusez-moi, je n'ai pas répondu sur les tourismes sexuels.
Voilà.
Vous m'avez posé cette question, excusez-moi.
À la fois sur peut-être la définition et puis peut-être aller chercher les racines, à quand remonte au fond les débuts de ce tourisme sexuel?
D'une certaine manière, le tourisme, ça remonte au 19e siècle. Mais je veux dire, au niveau, c'est surtout depuis l'aube des temps, hein, le tourisme sexuel a existé. Puisqu'à partir du moment où il y a de l'exotisme et qu'on va quelque part et qu'on découvre l'altérité et qu'on est forcément fasciné par l'autre, hein, je dirais notamment l'autre sexe, par exemple, pas seulement, mais par exemple. Et donc, on voit aussi qu'à ce niveau-là, je veux dire, c'est légitime, mais c'est normal qu'on soit attiré par quelque chose qui soit différent. Donc, c'est d'ailleurs quelque chose qui peut être très beau, hein. Il faut bien le rappeler quand même.
Et peut-être que la forme sous laquelle on la connaît aujourd'hui, je lisais dans votre ouvrage que, par exemple, si on regarde du côté de l'Asie, s'agissant de la période, disons, plus récente, mm-hmm. le 20e siècle, c'est avec les GI basés dans les régions asiatiques que une forme de tourisme, en tout cas... Allez-y.
Même bien avant, je peux regarder par exemple Madame Butterfly ou regarder des bouquins comme ou l'imaginaire de la Gaïcha, hein, Mémoire d'une Gaïcha, rappelez-vous le film ou le livre. Et voilà, je reprends l'exemple. Après, évidemment, avec les GI, ça s'est accéléré, mais pendant la colonisation, parce que je pense que ça me paraît très important quand même le contexte de la colonisation, parce que la colonisation, ce n'était pas seulement des batailles, c'est aussi la colonisation des corps. Et je crois qu'à ce niveau-là, la bataille avait été perdue, hein, de la colonisation pour l'Occident en grande partie. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit une recolonisation d'une certaine manière, une reconquête, en fait, en tout cas, par le biais du tourisme, du corps des autres, hein, qui, d'une certaine manière, on n'a pas eu son territoire, mais on aura son corps. Quoi. Et donc, quelque part, aujourd'hui, ce qui est intéressant, depuis 30-40 ans, avec la fin des GIs, donc stationnés en Thaïlande notamment, mais dans tout le sud-est asiatique, des GIs américains, donc, après la guerre du Vietnam, on voit qu'à un moment donné, tous les bordels en Thaïlande qui avaient ouvert, il fallait bien, à un moment donné, par rapport à l'offre et la demande, que le gouvernement thaïlandais, et pas seulement les proxénètes, mais je dirais tous les acteurs économiques qui sont derrière, à un moment donné, donc hôtellerie, restauration, devaient aussi se dire comment est-ce qu'on va rentabiliser tout cet investissement. Donc, à un moment donné, les touristes, les premiers package tours, hein, les premiers tours organisés, les premiers sex tours, dès la fin des années 70, sont apparus. Quoi.
Donc, on voit que... Très clairement, pardon, parce que ça, c'est très important, l'État thaïlandais, on parle de ce cas particulier, c'est à un moment investi pour essayer de transformer ce qui avait été déjà mis en place de fait par la présence des GI basés dans cette région-là, pour transformer cette économie-là, qui était une économie très importante.
Déjà, il faut savoir qu'à ce moment-là, donc, c'était la base arrière quand même de l'Amérique en Asie du Sud-Est, la Thaïlande. Et donc déjà, il y a eu beaucoup de mélange dans le bon comme dans le mauvais sens, qui ont eu lieu entre, l'Amérique et la Thaïlande. Et à ce niveau-là, je veux dire, donc, il y a toute une économie capitaliste qui s'est vraiment développée très sauvagement, on va dire, en Thaïlande. Et à ce niveau-là, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, ça a duré. Et on voit qu'effectivement, il y a une clientèle qui va tout simplement remplacer une autre de manière, je dirais, pour reprendre les lois du marché, naturelle, hein, d'après beaucoup. Et donc, ça veut dire que tout simplement, il fallait que ça tourne. Et je me rappelle à un moment donné, je ne me rappelle plus du nom maintenant en tête, mais un premier ministre thaïlandais qui avait dit au début des années 80, oui, mais la femme, si, il faut absolument que l'économie fonctionne. Si la femme thaïlandaise peut contribuer à sa manière, il n'y a pas de honte tant que c'est bien pour le pays, tant que c'est bien pour tout le monde. Et voilà. Et donc, c'est intéressant de voir comment aussi il y a une sorte de légitimation, ou en tout cas, on ferme les yeux et on se gêne pas. Je me rappelle aussi l'office de tourisme officiel de Thaïlande qui, même à un moment donné, donnait assez facilement, encore au début des années 90, hein, les adresses et faisait beaucoup la promotion très officielle, hein, de tourisme sexuel. Donc on voit que là, il n'y a pas trop de... Alors une fois plus, on est là aussi quand même, malgré tout, c'est notre culture. On n'est pas dans cette culpabilité que peut-être qu'on connaît chez nous ou ailleurs. Et donc, on voit aussi que, d'une certaine manière, il fallait faire des affaires, quoi. Et là, tout était bon pour faire des affaires.
Il y a quand même quelque chose qui va changer considérablement la donne, Franck Michel, c'est le tourisme de masse. La massification des flux touristiques, ça va engendrer de fait une augmentation assez importante de ce phénomène.
Voilà, justement, c'est, je dirais, le problème majeur qu'on peut voir depuis 20 ans. C'est effectivement, c'est un peu une lutte de vitesse, enfin, une course de vitesse qui a lieu depuis quelques décennies, c'est-à-dire entre la lutte contre le tourisme sexuel, qui est plutôt légitime, etc., et puis évidemment, même si souvent elle est sur des principes moraux discutables, mais c'est vrai qu'il faut absolument se battre contre ça. Donc ça avance, on va dire, de plus en plus vite et de mieux en mieux, hein, malgré tout. Mais en même temps, c'est pour ça que je parle de course de vitesse, en même temps, nous avons évidemment ce tourisme sexuel de masse, ce que j'appelle comme ça, qui en fait lui aussi se développe à une vitesse plus importante encore, hélas. Et donc, quelque part, c'est une bataille un peu perdue d'avance, je dirais, parce qu'elle est simplement, je dirais, stimulée fortement par deux industries qui, en ces temps, qui sont assez moroses et sur le plan économique, je veux dire, qui, sur le plan mondial, à l'échelle mondiale, sont vraiment florissantes. C'est l'industrie du sexe, hein, dont vous parlez depuis quelques jours, et l'industrie du tourisme. Et quand ces deux industries se rencontrent, il y a énormément de profits à faire. Et c'est pour ça que les États aussi, hein, pas seulement les voyagistes, les États ferment les yeux.
Et alors justement, si on devait faire une rapide géographie mondiale de ce tourisme-là, où est-ce qu'on retrouve, disons, les grands pôles qui sont concernés par ce tourisme sexuel? On a parlé de la Thaïlande, on a parlé du Maroc et du Brésil dans l'introduction, les grands pays.
Alors là aussi, bon, c'est un peu difficile de faire une liste, parce que la liste, déjà, elle est assez exhaustive. Et je veux dire, aujourd'hui, on peut quand même, bon, des grands pôles, il y a évidemment l'Asie du Sud-Est, avec, je dirais, en ligne de mire, enfin, surtout la Thaïlande, les Philippines, et puis...
Le Cambodge.
Et puis le Cambodge, avec, voilà, depuis 10-15 ans, ça commence en Vietnam et au Cambodge également. Et avec chaque fois, donc, des spécificités quand même très particulières. Donc, c'est très difficile de généraliser, hein, dans ces cas-là aussi. L'Indonésie aussi commence... aussi. Et puis bon, plusieurs... Après, il y a la Chine. Quand on parlait des tourismes sexuels au pluriel, il faut quand même préciser une chose avant. Donc du coup, c'est quand même que... Là aussi, il y a c'est un peu comme les poupées russes, vous voyez, l'emboîtement. C'est-à-dire qu'une certaine manière, il y a la prostitution locale, qui parfois est du tourisme national, si on veut, hein, du tourisme sexuel national, d'une certaine manière, parfois aussi. Hein, quand c'est des gens de Phnom Penh qui vont aller à Siem Reap pour chercher des filles. Et en même temps, vous avez le tourisme régional, le tourisme sexuel régional, qui, lui, se développe énormément partout, hein, partout à l'échelle mondiale. Mais je prends l'exemple de l'Asie. Par exemple, les Malaisiens, les Singapouriens qui vont aller en Thaïlande ou en Indonésie, hein, par exemple. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et puis, vous avez après le tourisme que nous, dont nous parlons plus dans les médias, c'est le tourisme des Occidentaux qui vont abuser ou pratiquer le tourisme sexuel dans les pays du Sud. Mais c'est très important que je note celui-ci parce que, d'une certaine manière, la prostitution locale, par exemple en Thaïlande, je veux dire, prenons cet exemple-là, c'est quand même de loin le plus important. Hein, et c'est souvent le plus sordide. Alors, par contre, le tourisme régional, le tourisme sexuel régional, par exemple, celui-ci prend de l'ampleur un peu partout parce que les classes moyennes, voilà, tout simplement, et puis l'accès à ces deux, je dirais, ces deux annexes très importants du tourisme sexuel que sont l'univers de la prostitution et l'univers de la pornographie. Qui se développe de plus en plus à une échelle aussi via le net, etc. Et donc, on voit que ces deuxièmes groupes, je dirais, de tourisme régional, tourisme sexuel régional, se développent beaucoup. Et le dernier, c'est finalement, qui occupe quand même le moins de personnes, c'est le tourisme sexuel des Occidentaux, par exemple. Hein. Je prends l'exemple en Thaïlande, même si on en parle plus. Hein. Mais pourquoi aussi on en parle plus? Parce qu'il est plus visible, il est plus dans l'altérité, il nous parle plus par rapport à nos propres problèmes. Et aussi, je dirais que c'est ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est pour ça qu'on a du mal à comprendre aussi, c'est que pour les prostituées thaïlandaises, je ne parle pas de Pang ou ailleurs, tout simplement, ben, je veux dire, c'est le must, hein, d'une certaine manière. C'est qu'on peut peut-être trouver un mari, hein, dans cette histoire-là. Et c'est pour ça que les relations sont, entre guillemets, durables, très souvent. Et le client revient et espère beaucoup de choses. Et donc, on voit que là, il se passe des idylles plus ou moins bien. Et puis, parfois, c'est quand même vraiment ce que... Une prostituée cambodgienne ou thaïlandaise, par exemple, va rechercher en premier parce qu'elle sait qu'elle va être, entre guillemets, peut-être mieux payée, mieux traitée, souvent aussi. Et donc, on voit que là, il y a une échelle des valeurs qui s'est mise en place et qui pose aussi problème quand on analyse le tourisme sexuel.
Playa Blanca, les hirondelles glissent dans l'air, température, fin de soirée, villégiature, séjour en couple, individuel. Girandole enroulée sur le palmier mort s'allume et la soirée décolle. les Allemandes traversent le décor. Playa Blanca, comme une enclave au milieu du monde qui souffre, comme une enclave au bord du gouffre, comme un lieu d'amour sans entrave.
Un lieu d'amour sans entrave, Playa Blanca, une chanson de Michel Houellebecq qui en 2001 avait écrit ce roman Plateforme, dont une partie se passe en Thaïlande. D'ailleurs, on est assez vite propulsé dans les salons de massage, dans les bars à prostituées thaïlandaises. Il avait été accusé au fond de défendre ce tourisme sexuel, puisque Michel, le personnage de son livre, se lance dans un projet de club où on propose aux gens tout simplement des services de prostituées, même si évidemment son propos était peut-être ailleurs, et il s'agissait aussi peut-être même avant tout de faire la critique de cette société ultralibérale dans toute sa brutalité, dans toute son moralité. Franck Michel, vous aviez, qu'est-ce que vous aviez pensé de ce livre de Michel Houellebecq d'ailleurs ?
Je trouve ce livre très intéressant. Alors, au-delà du personnage de Houellebecq, donc c'est pas le propos, c'est un livre que je trouve très intéressant parce que plus que beaucoup de travaux de, je sais pas justement, je sais pas que ce soit de sociologues, d'anthropologues ou d'historiens, parfois bah, il va plus loin dans la réflexion, je crois. Et il dit les choses comme elles sont. Quoi. C'est ce qu'on voit sur place. Alors, je sais pas s'il a fait beaucoup d'enquêtes sur place, Houellebecq, mais en tout cas, on peut vraiment observer ce genre de choses un peu crues. Alors, il le dit à sa manière, mais c'est la réalité qu'on peut observer. Et je pense que c'est une... En tout cas, je ne parle pas de la fin du bouquin, je parle de les trois quarts. On voit quand même que dans ce livre, il met vraiment le doigt là où ça fait mal. Quoi. Et je veux dire, d'une certaine manière, c'est peut-être chaque personne qui lit le bouquin qui se sent un peu mal en lisant ça. Et donc, je me rappelle des gens qui l'avaient beaucoup critiqué, surtout dans l'industrie du voyage, comme par hasard. Hein, donc, des gens qui ont écrit des guides ou des gens qui travaillent en Thaïlande, etc. Et qui disaient quand même qu'il va trop loin, etc. Parce qu'à un moment donné, on se sent visé. Quoi. On se sent aussi tout simplement responsable de quelque chose qui arrive, et qu'on n'arrive pas à gérer, qu'on n'arrive pas à dominer. Et je crois qu'un des grands problèmes, justement, c'est justement le touriste, quand il va là-bas, hein, comme le Michel en question, là, par exemple, dans le bouquin, je veux dire, c'est aussi la déresponsabilisation, justement, de l'être humain. Hein. C'est que d'un seul coup, on n'est plus citoyen. D'un seul coup, on est quelqu'un d'autre.
Par l'intermédiaire d'une transaction financière, tout simplement de l'achat d'un voyage auprès d'un tour opérateur, on se sent libéré du besoin de se préoccuper de l'autre. On est là juste pour profiter, pour se laisser vivre, quitte à transgresser les règles et à s'autoriser des choses qu'on ne s'autoriserait pas habituellement.
Tout à fait. Donc c'est vraiment un petit peu, je dirais, l'ailleurs devient un décor, hein, et devient un prétexte, en fait, pour tout simplement essayer de revivre. Hein. C'est-à-dire à la fois se ressourcer, mais aussi se donner un sens à sa vie. Et quand quelqu'un... C'est pour ça qu'il faut sortir un petit peu du cliché un peu qu'on avait encore il y a 10 ou 15 ou 20 ans. C'est-à-dire d'imaginer le touriste sexuel, c'est un vieux un peu pervers qui se balade dans un bordel.
Franck Michel, parce que autant on se sent tous visés, en effet, avec ce sentiment un peu libérateur. En effet, on a tous envie d'oublier notre quotidien quand on part en vacances, quand on part loin, c'est d'ailleurs un peu aussi pour ça qu'on recherche de l'exotisme. Et en même temps, tout le monde ne franchit pas ce pas et tout le monde ne va pas voir des prostituées dans les bars thaïlandais. Alors, qui sont quand même aujourd'hui ces clientèles qu'on va retrouver ? Quel est le profil type et les motivations de ce touriste sexuel ?
Justement, déjà, il n'y a pas de profil type, ça c'est à peu près clair, je crois. Par contre, il y a des profils divers. Bah, par exemple, vous parlez, je crois, en entrée d'émission de Monsieur Tout-le-Monde, et je pense que ça c'est pas mal. C'est effectivement Monsieur Tout-le-Monde, un petit peu, donc des gens très étonnants, mais quand je parlais, ce que je disais tout à l'heure, c'est par exemple aujourd'hui, on voit aussi de la banlieue que j'ai pu rencontrer dans des bars qui sont au RMI et qu'on va retrouver au RSA et qu'on va retrouver dans des bars, tout simplement parce que c'est moins cher d'aller faire un voyage à Bangkok aujourd'hui si on cherche bien que d'aller, en Corse ou en Bretagne, et que là-bas, on peut se permettre plein de choses qu'on ne pourrait pas faire dans sa banlieue où tout le monde se connaît et où on est au chômage et on n'est même pas bien vu par la voisine, etc. Donc, c'est plus difficile, vous voyez, de tout simplement d'avoir un peu d'espoir ici par rapport à des conquêtes féminines, par exemple. Et là-bas, tout simplement, ces choses vont être plus simples et plus faciles. Dans un autre genre aussi, puisqu'on parlait de la clientèle, vous avez par exemple beaucoup d'Australiens qui vont par exemple à Bali, puisque c'est juste à côté pour eux, et c'est pas cher. Et c'est vrai qu'une prostituée à Sydney, par exemple, coûte très cher et souvent n'est pas forcément très très jolie. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est beaucoup plus facile de prendre entre guillemets de la chair fraîche pour eux et de venir à Bali et où c'est moins cher et en même temps il y a l'exotisme. Donc c'est un sort de package, vous voyez, où c'est beaucoup de clients divers et variés se retrouvent facilement, à la fois financièrement et sur le plan physique.
Franck Michel, monsieur tout le monde, ça peut être aussi madame tout le monde, hein, parce que le tourisme sexuel, ça concerne aussi les femmes. Alors les chiffres, évidemment, c'est toujours très difficile, surtout en la matière, d'avoir des chiffres très précis, mais on dit que ce tourisme sexuel féminin, il représenterait 5 à 10% du tourisme sexuel global. On va en parler tout de suite.
En fait, j'ai toujours été attirée par le Sud, mais je n'avais jamais pensé à Port-au-Prince. Pour moi, Port-au-Prince, c'était pour les ploucs. Pourtant, depuis 6 ans, je viens ici chaque année et j'y reste tout l'été. Je descends toujours à cet hôtel. C'est calme, propre. La plage est belle. Il suffit que j'arrive ici pour me sentir enfin chez moi.
Did you come alone?
Yes.
Well... Welcome to paradise. You're gonna have a ball. I'm crazy about love. Sex and love. I'm not really sure anymore.
But at the same time, let's be honest. Here, I don't even notice whites. They're pretty insipid beside the blacks, no?
If blacks turn you on that much, you must have a ball in Montreal.
Voilà, petit extrait de Vers le Sud, un film de Laurent Cantet qui était sorti en 2005 avec Charlotte Rampling, qui raconte l'histoire d'une femme qui se rend régulièrement à Port-au-Prince pour y trouver l'amour, un amour fugace, un amour tarifé. C'est un film qui abordait cette question du tourisme sexuel féminin. Il y a un autre film d'ailleurs qui est sorti plus récemment, c'est Paradis Amour, qui est sorti en décembre dernier. Bonjour Christine Salomon. Christine Salomon, est-ce que vous êtes avec nous? Alors, est-ce que Christine Salomon est avec nous? On va essayer de vous retrouver. En tout cas, déjà, je vais vous présenter. Vous êtes une chercheuse associée à l'INSERM et puis vous êtes auteur de plusieurs articles sur le tourisme sexuel, dont notamment Vers le Nord, qui avait été publié dans Autre Part, une revue de sciences sociales, et puis Le Prix de l'Inaccessible, de nouvelles intimités genrées et racialisées à l'ère de la mondialisation. Christine Salomon, vous êtes là? Alors, voilà, on va la rappeler. Franck Michel, sur ce tourisme sexuel féminin, c'est vrai que la question qu'on a envie de se poser assez, assez rapidement, c'est est-ce que vous voyez, vous, une différence fondamentale entre le tourisme sexuel masculin, comme on le voit le plus souvent dans les reportages, dans les articles, dans les documentaires, et le tourisme féminin? Vous voyez des différences fondamentales?
Je crois qu'il y a une différence fondamentale, même s'il y a aussi des phénomènes de mimétisme, hein, on va dire, tout simplement de cette illusion de liberté du corps que soi-disant les hommes auraient. Et donc, quelque part, les femmes se jettent un petit peu dans cette mouvance également. Donc, mais en même temps, il y a une vraie différence. Et une des preuves, c'est quand même de voir le tourisme féminin, le sexuel féminin qui essaie de changer de registre, tout simplement, en l'appelant, par exemple, ça, en refusant souvent de l'appeler le tourisme sexuel, en l'appelant le tourisme sensuel, par exemple, hein, ou le tourisme romantique. On voit souvent le tourisme sensuel qui sort, parce que c'est beaucoup moins... C'est-à-dire, c'est beaucoup moins connoté. Et donc, on voit aussi que, parce que là aussi, pourquoi il y a une différence? Parce qu'il est moins, entre guillemets, on est moins dans les clichés, tout simplement, parce qu'un exemple, ça va beaucoup être la tarification va parfois être beaucoup plus en forme de cadeau, en forme de passeport, de visa, d'achat, tout simplement. Et donc, quelque part, ça va se passer comme une certaine manière. C'est comme si on draguait normalement, entre guillemets. Et d'une certaine manière, on est toujours dans une forme un petit peu, même si c'est un jeu de rôle, hein, très important, de cour romantique. Hein, d'une certaine manière, on se fait un peu la cour. Et il y a toujours, par exemple, le resto. Il y a toujours une manière très, très romantique qui est mise en exergue. Et donc, on voit quand même, dans le film le montre bien, hein, de Kanté. Alors, c'est intéressant de voir que le film, normalement, est quand même issu d'une première nouvelle qui s'appelle « La chair du maître », hein, de Daniela Ferrière. Vers le sud. Et donc, on voit le titre, la chair du maître, veut tout dire un petit peu. Hein. C'est qu'une certaine manière, ces femmes âgées occidentales et souvent assez aisées, qu'on rencontre assez souvent, et on voit que, par exemple, Je vous donne un exemple, une anecdote, peut-être, c'est peut-être intéressant. Alors, c'est peut-être de voir.
Juste, vous allez la garder. Mettez-la juste sous le coude parce que Christine Salomon est avec nous, mais je reviens vers vous, hein, Franck Michel, c'est promis. Mais alors, Christine Salomon, ça y est, vous êtes avec nous ?
Oui.
Voilà,
oui,
formidable. Oui. Alors vous, vous travaillez sur le tourisme sexuel féminin, notamment en Afrique de l'Ouest. Vous parlez d'un développement jusque-là inédit, de transactions, je vous cite, intimes entre des femmes blanches européennes d'un certain âge, pour utiliser un euphémisme bienséant, et des hommes noirs africains plus pauvres et plus jeunes qu'elles, ou, comme le formulent les intéressés eux-mêmes, entre vieilles blanches et jeunes blacks. Vous constatez, puisque c'était l'un de votre terrain d'étude, qu'il s'est considérablement développé ce tourisme sexuel féminin du côté du Sénégal. D'ailleurs, tiens, pourquoi le Sénégal ? Pourquoi est-ce qu'il s'est beaucoup développé ces dernières années, en particulier dans ce pays ?
Écoutez, depuis très longtemps, en Gambie, le pays voisin du Sénégal, un tourisme sexuel féminin a été décrit avec des femmes plutôt scandinaves ou anglophones. Et au Sénégal, la clientèle, si je peux dire, est plutôt francophone.
Alors, on discutait avant de vous retrouver avec Franck Michel sur peut-être les différences entre le tourisme sexuel masculin et le tourisme sexuel féminin. Et Franck Michel vous disait que peut-être la nature de la relation était un peu différente, que c'était peut-être une relation plus romantique, entre guillemets, ou peut-être la domination, au fond, devient un peu plus supportable lorsqu'elle est exercée par une femme sur un homme. Quel est votre avis sur ce point-là ?
Je ne dirais pas exactement ça, c'est-à-dire que le touriste sexuel classique, tel qu'on se le représente, hein, est un homme d'un certain âge, d'un pays riche, en vacances dans un pays pauvre, et qui achète pour un temps donné les services d'une femme du cru, jeune, jolie, docile, qu'on considère volontiers comme une victime. Et c'est vrai que dans ce genre de rapports sociaux, il y a un cumul des dominations. Et par rapport à cette image, la configuration des relations dans le tourisme sexuel féminin n'est pas tout à fait la même, puisque les femmes ont certes l'avantage économique, mais elles sont aussi souvent plus âgées que leurs partenaires. Alors, il y a néanmoins un point commun entre les deux tourismes. C'est la levée des inhibitions dues au fait d'être loin de chez soi, ce qui a été évoqué, un désir de vivre des expériences qui s'appuient sur un certain exotisme, mais aussi sur une érotisation de l'inégalité et sur l'idée que la sexualité pour les gens du pays aurait une signification autre, qu'elle serait plus naturelle, plus débridée, ce qui reprend bien évidemment des clichés en continuité avec les stéréotypes de la période coloniale. Alors, en revanche, c'est sûr qu'il y a une différence avec le tourisme sexuel masculin, puisque les rencontres sont moins clairement prostitutionnelles. Même si les femmes donnent des cadeaux ou de l'argent, il ne s'agit jamais de relations tarifées et rarement de relations qui sont réduites à un acte ponctuel. On peut dire que ce sont plutôt des liaisons. La durée du séjour de vacances qui peuvent se poursuivre au-delà et aller parfois jusqu'à des cohabitations ou des mariages.
Et d'ailleurs, Christine Salomon, j'en profite, il arrive, que, je ne sais pas si c'est souvent ou pas, mais il arrive que la démarche se fasse plutôt dans l'autre sens. Il y a des hommes sénégalais qui vont poster des petites annonces dans lesquelles ils vont proposer leur service à des Françaises qui s'apprêtent à partir pour le Sénégal.
Absolument, absolument, puisque il y a un certain nombre de jeunes hommes paupérisés qui essaient d'entrer en relation avec les touristes, hommes ou femmes, et pour lesquels c'est une porte de sortie par rapport à une situation bloquée dans le pays.
Encore un petit mot, Christine Salomon. Comment est-ce que ces hommes, justement, qui se prostituent, parce que quand même il s'agit bien de ça, comment est-ce qu'ils sont perçus ? Comment est-ce qu'on les perçoit au Sénégal, par exemple ? Comment est-ce qu'ils sont vus ?
Alors, eux-mêmes se considèrent comme des hommes d'affaires. Et souvent, leur activité de drague n'est pas leur seule activité. Ils sont engagés dans toutes sortes d'activités du commerce informel dans le secteur du tourisme. Ils vendent des objets, ils font les guides, etc. Alors, évidemment, les éléments les plus conservateurs de la société réprouvent ce genre de relation. Et ce qui est stigmatisé, c'est surtout la différence d'âge, parfois considérée comme astronomique, entre les partenaires. Et une différence d'âge où la femme est la plus âgée, puisqu'au Sénégal, dans les mariages entre Sénégalais, la femme est en moyenne 10 ans plus jeune que son époux, voire 20 ans.
En tout cas, un regard fondamentalement différent que celui qu'on pourrait porter, que la société pourrait porter sur une femme. Franck Michel, vous vouliez intervenir rapidement. Franck Michel.
Oui, alors là, je vais peut-être juste ajouter, effectivement, ce qui vient d'être dit, c'est très intéressant, dans le sens que c'est toujours une petite entreprise qui se met en place. Hein, et là, on le voit à la fois, on le voit avec les hommes, par exemple, en Afrique, qui gèrent ça avec les femmes occidentales, par exemple. Mais on le voit aussi, limite, parfois, dans pas mal de cas, peut-être de plus en plus, avec, par exemple, des jeunes Thaïlandaises, donc dans le cadre aussi de femmes par rapport à des hommes, par exemple, étrangers. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que c'est intéressant de voir qu'au début de l'émission, vous parliez de pauvreté, que la pauvreté qui amènerait à un moment donné le tourisme sexuel, enfin, dans le générique. Et on voit que je suis un peu pas tout à fait d'accord avec ça, parce que effectivement la pauvreté est une des raisons majeures, ça tout le monde sera d'accord, hein, de l'entrée dans la prostitution ou dans le tourisme sexuel parfois. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est pauvre que forcément une personne va se prostituer ou va entrer là-dedans. Et là, c'est intéressant de voir le background, je dirais, enfin les fondamentaux. Le socle fondamental des sociétés, hein, par rapport à la religion, par rapport à la structure familiale, etc. Et plus le socle est solide, moins cette entrée-là, pauvre ou pas pauvre, se fera. Et ça, c'est très intéressant. Donc, ce que je voulais juste dire là, par rapport à cela, c'est effectivement de voir ces jeunes filles thaïlandaises qui, en fait, pour s'acheter des sacs Vuitton ou des téléphones portables dernier cri, vont trouver un occidental de temps en temps et créer une relation durable avec lui. Donc, c'est une petite entreprise qui se met en place, quoi. Ce n'est pas du tout parce qu'elles sont pauvres ou parce qu'elles ont besoin de ça.
Franck Michel, vous restez avec nous. En revanche, merci à vous, Christine Salomon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle donc le prix de l'inaccessible, de nouvelles intimités genrées et racialisées à l'ère de la mondialisation. On va poursuivre notre discussion autour de ces enjeux du tourisme sexuel. Mais avant, on va retrouver notre ami Alexis Batovsev et sa chronique Frontières. Il est 11h passé de 36 minutes. Vous écoutez France Culture, vous écoutez Culture Monde. Alexis, qui dans sa chronique Frontières nous fait sonner les cloches. Écoutez.
Ne vous inquiétez pas, votre montre est à l'heure. Il n'est pas encore midi. C'est moi qui fais sonner ces cloches. Elles sont enregistrées sur mon ordinateur. Hier, je vous ai parlé de l'horloge parlante. Parlons aujourd'hui d'autres bruits du temps, beaucoup plus anciens, le son des cloches. Les tintements des heures, l'angélus du midi, le tocsin signalant un événement grave ou le glas du décès. Le temps de vie d'un chrétien est ponctué par le son des cloches. Enfin, là où cela est autorisé. À Jérusalem, par exemple, les autorités ottomanes ont interdit à partir du XVIe siècle aux chrétiens de faire sonner les cloches de leurs églises. Cette interdiction a duré jusqu'en 1856, quand l'édit impérial a levé cette interdiction, remerciant ainsi la France et la Grande-Bretagne de leur soutien à la Turquie dans sa guerre contre la Russie, connue sous le nom de guerre de Crimée. Les Ottomans ont même réservé l'honneur particulier aux Britanniques pouvoir ériger le premier clocher extérieur depuis le temps des croisades aux côtés d'une église protestante construite en 1849. Dans les décennies qui ont suivi, les puissances européennes se sont lancées dans une compétition hautement symbolique. Qui va ériger le clocher le plus haut ? Les Allemands et les Russes affirmaient avec fierté que depuis leur clocher, on voit la mer Morte et la Méditerranée. Seuls les Arméniens ont été absents de cette compétition. Ils ont préféré garder leur tradition en faisant sonner un clocher en bois, le kochnak. Tous les jours, à l'aube, un sacristain frappe avec un bâton en bois une planche également en bois. Cette invention arménienne leur a permis de contourner l'interdiction turque de faire sonner les cloches à Jérusalem. Et voici l'ambiance sonore à Jérusalem d'aujourd'hui. Le son des cloches subit souvent une compétition de la part de la voix des muezzins. Ajoutez à cela le son des sirènes annonçant le début du Shabbat. Dans cet environnement hautement compétitif, il faut absolument être à l'heure pour sonner ces cloches, raconte dans les colonnes de The Economist un franciscain de Jérusalem, Athanasius Makora. Et ceci n'est pas évident quand on fait sonner les cloches manuellement, d'où sa décision révolutionnaire d'automatiser les cloches de son église. Évidemment, les puristes disent que depuis cette révolution technologique, le son des cloches n'est plus le même. Certains chrétiens orthodoxes accusent leurs frères catholiques de commettre une espèce de péché originel en mettant la convenance devant la tradition ancienne. « Ils sont européennes, que voulez-vous ?» soupire un prêtre orthodoxe grec. À quoi les franciscains peuvent répondre qu'il n'existe pas, du point de vue théologique, d'interdiction formelle d'automatiser la sonnerie des cloches. Mais les deux seront d'accord pour admettre que ce sont les musulmans de la ville qui ont commencé cette révolution technologique. Dans le même hebdomadaire, un historien arménien de Jérusalem raconte que pendant longtemps, la maladie professionnelle des muezzins était la pneumonie. Imaginez chanter sous la pluie et le vent, pendant l'hiver, avant l'aube. Aujourd'hui, ils ne le font plus. Leurs voix sont enregistrées et diffusées à travers les haut-parleurs du haut des minarets. Reste donc à savoir si les autres églises vont suivre l'exemple des franciscains de Jérusalem. Après tout, les sonneurs de cloches n'ont pas des maladies professionnelles aussi graves que le muezzin. Et ce n'est pas si grave si le son des cloches retentit avec quelques secondes de décalage par rapport au temps de l'horloge atomique. Surtout à Jérusalem, une ville éternelle.
Frontières, la chronique d'Alexis Patovsev que vous pouvez retrouver sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. On poursuit notre série autour de l'industrie du sexe et aujourd'hui en particulier on s'intéresse au tourisme sexuel. On va parler à présent, parce qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, du tourisme sexuel impliquant des enfants, parce que comme on le disait tout à l'heure avec Franck Michel, même si évidemment c'est pas du tout la même chose, pour autant les deux sont quand même imbriqués. Alors toutes les législations en matière de prostitution infantile reposent sur la Convention des Nations Unies pour les droits des enfants de 1989. On va retrouver Justin Roberge depuis Montréal, qui est avocat. Alors Justin Roberge, vous n'avez pas eu, vous, à plaider personnellement dans des cas de tourisme sexuel, mais en revanche, vous collaborez avec une association qui s'appelle le Beyond Borders, qui lutte contre ce tourisme sexuel, qui lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants, et vous faites des formations, des interventions publiques auprès de personnes pour vous essayer de dénoncer ces touristes sexuels. Certaines personnes, Justin Berger, c'est un fait, se rendent à l'étranger dans le but d'exploiter sexuellement des enfants, ils profitent de la pauvreté, de l'impuissance des enfants, mais ils profitent aussi des failles dans l'application de la loi. C'est la raison pour laquelle au Canada, justement, et vous êtes avocat, donc vous allez pouvoir nous en parler, on a voulu s'attaquer à ce phénomène via le principe de l'application extraterritoriale du droit pénal. Expliquez-nous.
En fait, ce qui a été fait au Canada, puis ça a été fait dans plusieurs autres pays également, c'est une action qui a été prise un peu là, dans la suite de la Convention internationale des droits de l'enfant adoptée par l'ONU en 1989. En fait, c'est qu'on n'a pas créé de nouvelles infractions, c'est qu'on a tout simplement utilisé des infractions criminelles qui existaient déjà au Canada alors, essentiellement des infractions criminelles d'ordre sexuel impliquant des mineurs, et on a reconnu à ces infractions-là un principe d'extraterritorialité. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, il y a le principe général qui s'applique à tous les États en droit international, à l'effet que les lois de chaque État ont une application territoriale, donc elles s'appliquent sur le territoire de l'État. En conséquence, lorsqu'un Canadien commet un acte criminel dans un autre pays, c'est le pays hôte, l'autre pays où a été commis l'acte, qui est responsable de juger le ressortissant canadien. La problématique du tourisme sexuel relève du fait plutôt qu'il y a plusieurs États qui, pour différentes raisons, ne vont pas prendre des actions contre les criminels sur leur territoire, parfois, ce sont des États qui vont manquer de ressources pour appliquer la loi intégralement sur leur propre territoire. Parfois, c'est parce que ce sont des États qui vivent essentiellement du tourisme, donc ils ne veulent pas nécessairement faire une chasse aux sorcières sur leur territoire auprès des touristes. Alors, il y a plusieurs raisons qui tournent autour de cette problématique-là, mais bref, le Canada et d'autres pays ont décidé donc d'accorder une portée extraterritoriale, faisant en sorte que les Canadiens, les ressortissants canadiens qui sont à l'extérieur, qui commettent un crime à l'extérieur, et là, on parle du crime selon la définition du code criminel canadien et non pas du code criminel local. Donc, le Canadien qui commet un crime à l'extérieur sur un autre pays, s'il n'est pas jugé dans ce pays, peut être jugé au Canada pour les actes commis à l'étranger. Donc, c'est une exception qui est reconnue en droit international et qui a eu une montée en popularité, je vous dirais, suite à l'adoption de la Convention de l'ONU. Et plusieurs États se sont lancés dans cette voie.
Que je comprenne bien, justement, Justin Roberge, quand même, vous disiez dans le cas où cette personne n'aurait pas été condamnée. Comment ça se passe quand, justement, on a été condamné? Est-ce que c'est le principe d'une double peine? On est condamné à l'étranger et puis on est recondamné du côté du Canada et éventuellement, par exemple, à l'issue de sa peine, on est à nouveau condamné. Si, par exemple, la peine a été inférieure à ce que le droit canadien prévoit, est-ce que quand on arrive au Canada, on fait le reste, par exemple, de prison? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe?
Non, 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 absolument pas. Si le ressortissant a été jugé à l'extérieur, dans le pays hôte, soit qu'il a été innocenté, soit qu'il a été reconnu coupable et qu'il a purgé sa peine, à ce moment-là, le Canada ne va pas juger cette personne-là une deuxième fois.
D'accord, mais donc, dans le cas où, par exemple, il serait condamné à une peine inférieure à ce qu'aurait décidé un juge canadien, la condamnation a eu lieu quand même, donc on ne touche pas, on ne fait rien.
Exactement.
D'accord, ok, j'ai bien compris. Quel bilan est-ce qu'on peut faire, Justin Roberge, de tout ça?
Bon, dans un premier temps, ce n'est pas la solution miracle que l'application extraterritoriale des lois. Il faut comprendre que c'est une solution qui doit être considérée globalement dans l'ensemble de toutes les autres démarches qui sont entreprises pour lutter contre le tourisme sexuel. En fait, il n'y a pas de solution idéale. Il y a un ensemble de solutions qui vont viser à affecter et l'offre et la demande. En fait, plusieurs organismes, incluant l'ONU, mais beaucoup d'organismes nationaux, vont traiter du tourisme sexuel comme étant une question d'offre et de demande. Ça fait un peu, c'est un peu froid d'en parler comme ça quand on parle d'abus sexuels commis sur les enfants, mais ça permet de comprendre bien des choses. Il y a des pays, il y a des endroits dans le monde où l'offre d'enfants, disons-le comme ça, est plus grande, est plus disponible, est plus accessible. Et il y a des pays où la demande, où certaines personnes vont rechercher des activités sexuelles avec des enfants, vont rechercher à commettre des abus sexuels sur les enfants. Alors, quand on s'adresse au tourisme sexuel, on doit le faire en termes d'offre et demande. On doit s'attaquer à l'offre, on doit s'attaquer à la demande. Nous, au Canada, notre problème, c'est pas l'offre d'enfants, c'est vraiment la demande. C'est qu'il y a des gens qui recherchent ça et on doit s'attaquer à eux. Et la loi canadienne vise cet aspect-là de la problématique. Dans les pays hôtes, il va y avoir beaucoup d'organismes non gouvernementaux qui viennent en aide aux enfants et qui vont à l'occasion collaborer avec les autorités canadiennes pour faciliter l'application de la loi canadienne. Jusqu'à maintenant, au Canada, depuis l'adoption en 97, là, la modification plutôt au code criminel, je crois qu'on a entre 20 et 30 condamnations qui ont eu lieu. Rien de vraiment médiatisé. Et malgré tout, c'est un bilan qui est assez faible, je vous dirais, quand on est sur le terrain et quand on parle aux gens qui sont sur le terrain et qui nous expliquent tout ce dont ces organismes-là peuvent être témoins.
Pourquoi est-ce qu'il est faible?
En fait, la raison principale, c'est que sur papier, la modification apportée au code criminel est bien intéressante et bien et beaucoup de gens étaient enthousiastes suite à ça. Maintenant, d'écrire des lois et de les appliquer, c'est autre chose. Je vous donne un exemple concret. Lorsqu'un Canadien commet un acte criminel à l'étranger, il n'est pas jugé à l'étranger, il revient au Canada. Alors, supposons que le procureur général au Canada est mis au courant de cette infraction et décide de porter des accusations criminelles contre le Canadien. Premièrement, évidemment, il faut faire une preuve. Et là, on a le fardeau de preuve en matière criminelle qui est hors de tout doute raisonnable pour reconnaître la culpabilité du citoyen canadien. Alors, ce qui veut dire qu'il faut faire la preuve. Faire la preuve, ça implique avoir une victime. La victime est toujours, dans ce cas-ci, un enfant, généralement dans un pays peu ou pas développé. et très souvent un enfant pauvre qui est déjà victimisé dans son propre pays parce que soit la propriété d'un groupe criminel qui le vend comme, comme prostituée ou comme esclave sexuelle, ou qui est déjà, bref, l'enfant est déjà victimisé dans son propre pays. Les pays dont on parle, ce n'est pas les pays voisins du Canada. Donc, la distance est longue à parcourir. Faut, ne serait-ce que pour retrouver l'enfant, dans bien des cas, c'est un défi. Le retrouver et ensuite le faire témoigner, ça implique, dans bien des cas, le transporter jusqu'au Canada pour qu'il vienne témoigner.
Ce qui est quasiment impossible.
Ben, c'est quasiment impossible. Ou quand on a dû le faire, ben, évidemment, on fait venir des gens qui vont l'accompagner. Alors, imaginez le traumatisme que peut vivre cet enfant-là. Ça peut être assez sérieux.
Alors, donc, au fond, pour résumer, ça peut s'avérer efficace, cette extraterritorialité du droit, mais ce n'est pas une réponse, ce qui explique que vous avez besoin de poursuivre ces campagnes que vous faites, notamment avec votre association.
Exactement.
Merci beaucoup, Justin Roberge, donc avocat depuis Montréal, un spécialiste de la lutte contre le tourisme sexuel. On arrive au terme de cette émission. Et puis, un grand merci à vous, Franck Michel. J'aurais voulu vous faire réagir. On avait encore plein d'autres choses à aborder, mais voilà, pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus, je les invite à se pencher sur votre ouvrage « Voyage au bout du sexe, trafic et tourisme sexuel en Asie et ailleurs » aux presses de l'Université de Laval. C'était en 2006. Un grand merci à vous, Franck Michel. On arrive donc au terme de cette émission. Merci beaucoup à toute l'équipe qui a préparé cette émission. On retrouve dans un instant Caroline Brouet et La Grande Table, juste après le journal de la rédaction. Mais avant, c'est la microfiction. Excellente journée sur France Culture et à demain.